Aujourd'hui, 13 décembre, nous fêtons Sainte Lucie. Bonjour, Abbé Philippe Peïkia.
Bonjour.
Qui était cette Vierge et martyre et à quelle époque a-t-elle vécu?
Si vous allez à Venise, vous avez la surprise de découvrir dans une église de Venise, dans un cercueil en verre, bien entendu, la momie de Sainte Lucie, rapportée de Syracuse, où elle est morte. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est lors de la quatrième croisade pour la mettre en sécurité, ou est-ce que c'est un vol de reliques, comme on avait l'habitude d'en faire au Moyen-Âge. Enfin, le fait est que...
Et vous l'avez vu de vos yeux, de vos propres yeux?
Voilà. Quand j'ai visité Venise il y a quelques années, une ville que je ne connaissais pas, par pur hasard, je suis entré dans une église et j'ai vu qu'il y avait un culte à Sainte Lucie. Je me suis approché et donc j'ai vu que c'est le sanctuaire à Sainte Lucie. Bon, alors, de Sainte Lucie, comme on l'a eu dit déjà de Sainte Cécile, on n'a pas de grands renseignements historiques à son sujet. On pense qu'elle est morte martyre en 304 ou 310, donc lors de la terrible persécution de Dioclétien. Alors il y a bien une passion de Sainte Lucie, mais qui est quand même un petit roman, hein, qui raconte bien que cette jeune fille va prier sur la tombe de Sainte Agathe, qui est une compatriote, une Sicilienne aussi, pour la guérison de sa mère, et que Sainte Agathe lui apparaît là, en lui disant que c'est pas nécessaire qu'elle vienne prier sur cet homme, qu'elle-même pourrait le faire. Donc voilà, guérison de sa mère. Puis dans la Passion, on raconte que fiancée, elle vend tous ses biens. C'est aussi à l'éloge de la virginité chrétienne. Et donc, son fiancé la dénonce comme chrétienne, et bien sûr, elle va résister face au bourreau, face au juge, et à la fin des fins, donc, elle va être décapitée. Donc voilà, c'est un roman, ceci étant. Au 5e siècle, à Syracuse, bien déjà, on invoque Madame Sainte-Lucie. Au 6e siècle, à Ravenne, à Saint-Apollinaire, il y a donc le cortège des vierges chrétiennes, elle y est peinte, donc voilà, donc un culte assez, qui s'est développé donc tant à Rome que à Ravenne, qui était aussi donc capitale impériale.
Sainte Lucie, il y a une histoire de l'œil de Sainte Lucie, non?
Alors oui, on la représente avec sur un plateau deux yeux, parce que d'aucuns pensent que lui a arraché les yeux lors de son martyre. Le fait est que dans la piété populaire, elle est invoquée pour les maux-dieux, pour demander la guérison des yeux, et quelqu'un comme le grand poète Dante, qui avait une vue un peu basse, si on peut dire, l'a invoquée non seulement pour qu'elle guérisse sa vue, mais qu'elle illumine ses ténèbres intérieures, car il était très porté à certaines passions. Et Dante la met au ciel, hein, à la gauche de Saint Jean-Baptiste. Le fait est que le nom de Sainte Lucie, Lux Lucis, Lucia, évoque la lumière. Cette fête se célèbre le 13 décembre à la Sainte Luce. Le jour n'est pas plus grand qu'une puce, hein, dira le proverbe. Donc, à un moment où les jours vont grandir. Donc, bien sûr, c'est très, très cohérent avec le solstice. Et l'oraison de la messe demande au Seigneur que, à sa prière, notre foi soit ravivée. Voilà. Que notre foi soit éclairée, ravivée, c'est ce qu'on peut demander aussi à Sainte Lucie.
C'est une belle évocation de sainteté pendant ce temps de l'Avent, avec les jours qui diminuent, une sainte de lumière, puisque son prénom signifie la lumière.
Et le 25 décembre, le soleil qui se lève, hein, voilà, en la personne du Christ naissant.
Demain, 14 décembre, nous célébrerons Saint Jean de la Croix. C'est une figure importante de l'Église.
Ah oui, c'est une figure très importante. Alors, le père est noble et la mère est pauvre, moyennant quoi, bien sûr, la famille du père un peu blackboulé cette famille. Donc il va connaître la pauvreté, il va être orphelin très jeune, il va pratiquer divers métiers. Voilà, donc il va faire des tissus, il va soigner les malades. Et si vous allez à Tolède, à l'hôpital, vous avez devant l'hôpital une plaque qui rappelle que Saint Jean de la Croix donc, a servi les malades là dans son jeune temps. C'est un petit bonhomme de taille, mais un grand aux yeux de Dieu, dirait Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, il recherche une vie religieuse radicale. Bon, il trouve que le Carmel de son époque ne la produit pas. Il menace, si je puis dire, de devenir chartreux. Quand Sainte Thérèse d'Avila, il y a une différence d'une génération entre l'un et l'autre, va pour ainsi dire le récupérer pour la réforme thérésienne, autrement dit, pour une vie carmélitaine qui soit plus proche de la règle primitive et qui laisse de côté les aménagements apportés au XVe siècle lors des grandes pestes, et ce genre de choses. Donc il va être un auxiliaire précieux de Sainte Thérèse d'Avila.
Oh, c'est un Espagnol.
C'est un Espagnol, c'est un Castillan.
Du XVIe siècle.
Voilà, il naît le 24 juin 1542 à Fontibejos et il mourra, vous voyez, il a pas 50 ans, il mourra le 14 décembre 1591 à Ubeda.
C'est un mystique qui est docteur de l'Église.
Il a beaucoup de flèches à son arc. Bon, d'une part, il connaît la Sainte Écriture, il a fait des études très solides à Salamanque, il connaît les théologiens de Salamanque de cette époque, qui sont quand même des références, et aussi il y a son expérience mystique, mais également dans ce qu'il écrit, il a tenu compte de l'expérience spirituelle d'autres. Donc voilà, il y a des dialogues. C'est aussi un poète. Dans un premier temps, il a écrit des poèmes. Bon, lorsqu'il a été, j'ose pas dire embastillé, mais jeté dans un cachot. Et ensuite, dans divers traités, il va commenter ses poèmes. Donc, ses commentaires, en même temps, présentent un peu les grands parcours de la vie spirituelle. Les grandes étapes, et donc il va insister sur l'union à Dieu, sur le fait de mourir à pas mal de choses pour faire la volonté de Dieu, et sur la foi pure dans la nuit obscure pour atteindre la lumière de l'aurore.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un chantre de l'amour ?
Ah, ça en est un, effectivement. À sa mort, il se fait lire le Cantique des Cantiques, ce qui est étonnant, n'est-ce pas, qu'il trouve merveilleux. Oui, c'est un amour au sens d'un amour radical, totalement donné, fût-ce dans la difficulté et dans la souffrance. Mais également, il peut parler aussi à des laïcs chrétiens, de divers thèmes qu'il peut aborder. Par exemple, le chapitre 22 de son livre sur la montée du Carmel, rappelle que le Christ est la dernière parole de Dieu, qu'on n'a pas besoin, que Dieu ne parle plus comme dans l'ancienne alliance, par songe, par divers prophètes, et que désormais, bien voilà, c'est à cette parole-là qu'il faut se référer si on veut connaître Dieu. Et il y a un petit opuscule, dites choses des lousses, c'est des petites sentences où Saint Jean de la Croix, par exemple, nous dit pour la vie chrétienne que si on sème de l'amour, on récoltera de l'amour. Au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons examinés, que nous serons jugés. Donc il est un peu à géométrie variable. Il peut permettre le cheminement dans la vie mystique, dans les hauts degrés, si on peut dire, de la vie spirituelle, comme il peut effectivement parler tant par ses écrits que par son exemple, voilà, des chrétiens, si je puis dire, de base.
Merci à vous, Abbé Philippe Beitia, de nous avoir parlé de Sainte Lucie que nous fêtons ce 13 décembre, et demain nous célébrerons Saint Jean de la Croix.